Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On va, on démarre.
Il n'y a jamais de voix favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée de la politique et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu et qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
L'intellectuel est sans pouvoir et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not in a pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Bouygues était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit, qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui, pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Fabienne Brugère, philosophe, choisit un texte de Martha Nussbaum, publié en 1993, et nous parle de famille, de travail des femmes et de théorie de la justice.
Bonjour. Alors, je cherche un numéro d'esprit de mai 1993 qui doit être par là, donc... C'est dans Nouvelle question du féminisme, il y a un article de Martha Nussbaum intitulé « Justice pour les femmes » qui est la traduction d'un papier que Martha Nussbaum avait rédigé pour la New York Review of Books en 1992 et ce texte est publié en français dans le numéro d'esprit de mai 1993.
Angela a fait des études secondaires, mais elle s'est mariée juste après son entrée à l'université. Elle a donc arrêté ses études pour travailler, afin de faire vivre son mari qui continuait les siennes, puis elle a abandonné son travail pour avoir des enfants. 10 ans plus tard, elle a divorcé et a obtenu la garde de ses 3 jeunes enfants. Mais le tribunal a demandé que la maison familiale soit vendue et le produit de la vente divisé entre les époux. Cependant, les pensions alimentaires et les allocations de transition décidées par le tribunal sont insuffisantes, et Angela, obligée de ne compter que sur ses propres revenus, est prise dans un cercle infernal et sans issue. Il lui faut accepter des travaux qui ne sont guère payés au-dessus du salaire minimum, tout en continuant à s'occuper des enfants et de la maison, ce qui l'empêche de suivre toute formation professionnelle. Sa frustration est d'autant plus grande que son mari, en revanche, s'en sort très bien. Il faut en moyenne à un divorcé 10 mois pour gagner autant que l'ensemble du couple. Et les hommes, après un divorce, paient en général plus régulièrement les traites de leur automobile que leurs pensions alimentaires. Les femmes sont victimes d'injustices non seulement à cause de la discrimination qu'elles subissent dans la sphère publique, mais aussi en raison de la manière dont travail et revenus sont répartis au sein même de la famille.
Le texte de Martha Nussbaum est un texte qui porte sur le travail des femmes et sur les injustices liées au sexe ou au genre, en particulier dans la sphère familiale. C'est un texte qui est en même temps une recension critique d'un livre de Suzanne Moller-Hawkin qui est sorti quelques années avant, en 1986, qui porte donc sur justice, genre et famille. Ce livre était une discussion des théories de la justice issues de John Rawls et de l'idée que la sphère familiale est un lieu d'injustice liée au genre. Et Martha Nussbaum discute ce texte de Suzanne Mollenhauer-Hawkins. Elle discute aussi, bien sûr, dans le cadre de cette tradition du libéralisme politique, vraiment formulée au départ par John Rawls. Et elle essaie, à partir de là, de reformuler aussi une théorie de la justice. Ce texte vaut comme une manière de rendre la question de la justice moins abstraite qu'elle ne l'est dans le cadre des théories de la justice. Et c'est pourquoi, précisément, Martha Nussbaum part de cet exemple pour justement mettre en avant la difficulté de la situation des femmes, la difficulté de leur vie familiale, la manière dont elles doivent se partager entre un travail et puis le soin des enfants. Et elle le fait dans le contexte d'une femme qui vit dans une banlieue américaine, comme elle dit, une banlieue blanche des États-Unis. Et on voit bien comment les injustices que subissent les femmes, dont elles sont victimes dans la sphère familiale, concernent aussi bien ce qu'on appelle le nord global que le sud global. Et finalement, dans ces situations de vie, eh bien, les femmes se ressemblent. Elles subissent le même type d'injustice.
Rawls ne semble pas avoir beaucoup réfléchi à la question de la famille. Il mentionne à un endroit qu'elle fait partie de la structure de base de la société, dont les principes doivent donc être définis dans l'état originel. Il ne dit pourtant rien de la manière dont on choisira de la structurer, et à un moment il affirme même que la famille est simplement prise comme un donné, bien que, dans le cadre d'une analyse plus complète, on pourrait mettre en question l'institution familiale. Comme l'écrit Hawkins, pourquoi faudrait-il une analyse plus complète que cette étude colossale qu'il se propose de faire dans A Theory of Justice, pour soulever des questions quant à l'institution familiale et sa forme? Il est clair cependant que Rawls considérait que cet aspect n'avait aucune importance pour l'élaboration d'une théorie de la justice. Ceci est d'autant plus étonnant, remarque Hawkins, que l'auteur analyse en détail, dans une partie de son livre très importante et très peu lue, la manière dont les enfants apprennent le sentiment moral, puis le sens de la justice, grâce à leur expérience dans la famille au début de leur existence. Comment cela peut-il se produire, se demande avec raison Hawkins, si la famille est elle-même une structure injuste?
Le problème qui est posé est vraiment celui de la famille en tant qu'elle doit pouvoir intervenir dans le cadre d'un questionnement sur la justice. Ce que rappelle Nussbaum dans ce texte, c'est qu'en même temps, Rawls nous dit bien « la famille est une structure de base de la société ». Donc, d'une certaine manière, il y a bien une perspective d'institutionnalisation de la famille. Mais dans tout ce gros texte qu'est la théorie de la justice, la famille n'est jamais pensée comme étant un lieu où s'appliquent réellement les principes de justice. Ce qui est particulièrement percutant dans le texte d'Hawkins, c'est qu'elle nous dit on doit faire surgir la famille elle-même avec toutes les injustices qu'elle produit et qui tiennent au fait que les femmes sont condamnées ou sont les victimes d'une double journée de travail, à la fois le soin des enfants, le travail ménager et puis le travail comme gagne-pain. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien elles sont confrontées à une difficulté à vivre, à une difficulté à avoir des revenus suffisants. Contrairement aux hommes qui, eux, peuvent finalement beaucoup plus se réaliser. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière le texte de Suzanne Mollenhauer-Hawkins, on reste bien dans le cadre du libéralisme politique, c'est-à-dire dans le cas d'une conception de l'individu comme étant autonome. Et donc, ce que pose Hawking en termes d'injustice, c'est que l'autonomie est facile pour les hommes et l'autonomie est quasiment impossible pour les femmes qui passent leur temps à être dans des empêchements et des contraintes et des dépendances. Et donc, appliquer les principes de la justice dans la sphère familiale, c'est rendre possible par des lois, mais aussi par un changement dans la vie quotidienne, eh bien une autonomie des femmes. Ça me paraît un moment fondamental du texte qui révèle vraiment une figure forte de l'individu et une compréhension des hommes et des femmes à partir de la place de l'individu. Là où intervient Nussbaum sous une forme critique, c'est par le fait que Nussbaum dit « il n'y a pas que la question du travail, il n'y a pas que la question des revenus, et donc il n'y a pas seulement le fait que les femmes finalement gagnent beaucoup moins d'argent, que les hommes sont beaucoup plus empêchés de se réaliser au sens de produire des richesses. Il y a autre chose, c'est que les femmes ont beaucoup moins aussi la possibilité de structurer leur existence et ont beaucoup moins la possibilité de se développer. De se développer et de réaliser un horizon de possible. Et il me semble que ce qu'introduit Nussbaum de manière vraiment intéressante, dans le cadre finalement d'une théorie féministe de la justice, c'est la possibilité de penser le développement, les capacités, la liberté d'accomplissement, et pas seulement justement le revenu, et pas seulement un résultat, on pourrait dire, économique du travail. Le travail, c'est aussi un accomplissement. Le fait de ne pas être empêché dans son travail, c'est le fait de pouvoir y projeter des émotions positives, des désirs, c'est le fait de ne pas être empêché. Et c'est justement cela qui, dans beaucoup de cas, est impossible pour les femmes, parce que précisément, elles sont toujours confrontées à des épreuves qu'elles n'ont pas les moyens de dépasser. Le texte de Martha Nussbaum est publié en français en 1993, à un moment où on connaît mal les théories féministes américaines, et en particulier celles qui précisément essaient de définir la possibilité d'une justice féministe à partir d'une liberté d'action des femmes. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte de Nussbaum, c'est que les femmes ne sont pas seulement des victimes. Certes, elles sont des victimes à certains égards dans la sphère familiale à cause de toutes les contraintes qui pèsent sur elles, mais en même temps, elles doivent pouvoir avoir les moyens de se réaliser et de développer ce que l'on pourrait appeler une agentivité. Et qu'est-ce que c'est finalement qu'un État démocratique? Qu'est-ce que c'est qu'un pays démocratique qui serait à même de réaliser une justice féministe? Ça serait justement celui qui donnerait aux femmes la possibilité de développer cette agentivité, la possibilité de devenir des sujets de leur propre existence. Et en ce sens-là, Martha Nussbaum me fait penser à Simone de Beauvoir et au texte de 1949, Le deuxième sexe, dans lequel Simone de Beauvoir pose la nécessité pour les femmes de devenir des sujets.
L'histoire de Saléha Begum s'est relativement bien terminée. Elle a non seulement obtenu le droit pour lequel elle s'était battue, celui de travailler à côté des hommes pour se nourrir, mais elle a aussi rassemblé d'autres femmes dans des coopératives qui ont pu, petit à petit, développer des activités telles que l'élevage de volailles, la pisciculture, la culture du ver à soie, et même parfois des soins médicaux et vétérinaires, et du conseil juridique. Elle a appris à lire et à écrire, puis a organisé des classes d'alphabétisation pour les autres paysannes. Aujourd'hui, C'est un leader politique respecté. Son mari travaille sous contrat comme expert technique dans la coopérative de femmes. Mais tous ces événements se sont produits en dépit de sa situation familiale, et sans que ne changent fondamentalement les institutions familiales qui oppriment et menacent les femmes comme elles partout dans le monde. Est-il possible de rendre ces institutions qui, dans le meilleur des cas, sont une grande source de bonheur pour enfants et adultes, compatibles avec la justice? Ou bien, Platon avait-il raison de penser qu'une justice véritable parmi les hommes réclamerait des mesures plus radicales? Le libéralisme ne pourra répondre à ces questions tant qu'il n'adoptera pas une position claire et satisfaisante sur la nature du bien chez l'homme.
Ce texte est à lire dans le cadre d'un attrait, mais plus que ça, d'une nécessité de raconter les vies des femmes. Et donc, ce que fait Martha Nussbaum dans cet article, c'est reprendre des parcours de vie, et surtout la manière dont ces parcours de vie se sont développés à travers des étapes, avec des épreuves. Ça entre dans quelque chose, je pense, de très contemporain dans les mouvements féministes, qui est vraiment la perspective de faire surgir les voix des femmes à partir du récit de leurs oppressions et de la manière dont elles peuvent arriver parfois à dépasser, à déjouer, à s'écarter de ces oppressions. Il y a quelque chose de largement philosophique aussi, qui est à intégrer dans le cadre d'une théorie féministe et de la manière dont en philosophie on pense un projet politique, qui est celui aussi de poser une justice féministe, et donc l'importance du critère du genre dans l'élaboration d'une théorie de la justice, selon l'idée qu'il ne peut pas y avoir de justice sans considération de la domination et sans lutte contre la domination des hommes sur les femmes. Et donc, en ce sens, ce qui est aussi très actuel, c'est que la perspective d'une justice de genre, c'est aussi une demande de pouvoir de la part des femmes, et c'est bien aussi la perspective d'une revendication du partage du pouvoir entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, dans le parcours de Saléha Begoum, il y a quelque chose d'incroyable qui est la manière dont Martha Nussbaum met en scène la capacité de cette femme à faire quelque chose de sa vie, dans le registre en même temps de ce qu'on pourrait appeler une sororité. Elle crée une coopérative avec d'autres femmes, elle apprend à lire, elle apprend à écrire, et ensuite elle alphabétise d'autres femmes jusqu'à devenir aussi un leader politique. Donc il y a tout un parcours de la solidarité au féminin et de la transmission d'un savoir qu'elle a acquis petit à petit. Et bien évidemment, dans ce parcours, il y a la manifestation de ce qu'on pourrait appeler une potentia des femmes, une puissance des femmes. Et donc là, il faudrait d'ailleurs, je pense, faire une distinction que Martha Nussbaum ne fait pas dans ce texte, mais qui me semble aujourd'hui importante, entre potentia et potestas. C'est la puissance des femmes. Donc, mais ce n'est pas pour autant un pouvoir au sens masculin du terme, ce pouvoir sur les autres. Il s'agit bien plutôt de faire fonctionner, je dirais, une puissance, un pouvoir du dedans, qui est aussi une façon d'aller vers les autres et de faire avec les autres et de faire société. Et donc il y a là quelque chose de très fort qui pose vraiment à nouveau l'existence non pas seulement du côté du revenu, mais du côté de la conception d'une existence et du développement d'une existence qui soit en solidarité et en écho avec d'autres existences.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Sarah Stern. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.